Bonjour et bienvenue au podcast Écoféministe. Ce podcast est créé par le Comité féministe de psychologie et neurosciences cognitives de l'Université de Montréal. Notre podcast se nomme Écoféministe, éco comme dans écoféminisme, qui est un mouvement qui fait le lien entre l'exploitation des femmes et minorités et de la destruction de l'environnement, qui nous inspire grandement. Aussi éco parce que l'on espère que le contenu de notre podcast va résonner chez vous. Si vous souhaitez en savoir plus à propos de l'écoféminisme, je vous suggère d'aller écouter un épisode dédié à ce mouvement qui a été diffusé en 2021 durant la deuxième saison. Donc, bienvenue au deuxième épisode de la quatrième saison de ce podcast. Je suis Maya, la gestionnaire et animatrice du podcast, et j'utilise les pronoms féminins. Aujourd'hui, je suis accompagnée de plusieurs invités du comité EDI. Voulez-vous vous présenter rapidement?
Salut, moi c'est Adini. Mon pronom, c'est elle. J'utilise des accords féminins et je suis membre du comité EDI de la GPOM.
Pour moi, mon nom, c'est Émeric. Je fais aussi partie du comité EDI, première année étudiant en psychologie. Et pour ce qui est de mes pronoms, c'est il.
Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui pour pouvoir discuter ensemble. Donc, avant d'aller dans le cœur du sujet aujourd'hui, j'aimerais juste parler un peu de votre comité et de l'EDI. Donc, voulez-vous me faire une brève définition de l'EDI? C'est quoi?
L'EDI, c'est Équité, Diversité et Inclusion. Dans le fond, c'est un mouvement qui essaye de mettre de l'avant ces trois valeurs-là dans à peu près tous les domaines. Puis dans notre cas, c'est la psychologie à l'Université de Montréal.
On a aussi comme devoir de représenter ces minorités-là. On essaie de faire des activités, promouvoir quelques mouvements aussi. Donc, plus qu'il y a de gens qui viennent, plus qu'on promouvoit notre comité, dans le fond. Fait que vous êtes toujours les bienvenus à venir nous voir aussi si jamais vous avez des activités à proposer ou si jamais vous vivez de la discrimination envers votre minorité aussi.
OK, donc les gens, s'ils vivent de la discrimination, ils peuvent venir vous voir et vous en parler.
D'une certaine manière, oui. Okay. On n'a pas tant de ressources que ça, mais on peut quand même aller rejoindre la GPOM aussi, qui va pouvoir nous aider aussi.
Hein. OK, cool.
Et aussi les autres ressources de l'université.
Aussi, effectivement.
Je ne savais pas par rapport à ça. Comment l'EDI s'applique dans la vie de tous les jours pour vous?
Je pense que la première étape, c'est la reconnaissance. Tu sais, souvent, on a peur de parler les minorités sexuelles, les minorités de genre, les minorités visibles et les minorités invisibles, comme les handicaps et tout. Mm-hmm. Mais je pense que la première étape à atteindre l'équité, la diversité et l'inclusion, c'est passer par reconnaître que ces différentes personnes-là qui sont minoritaires dans la société dans laquelle on vit, qu'elles existent, qu'elles occupent un espace et qu'on veut que cet espace-là soit le plus accueillant possible pour eux.
C'est aussi important, vu qu'on est dans un programme de relations d'aide, donc il faut détruire des stéréotypes, des préjugés aussi, si on veut vraiment pouvoir faire notre travail comme il faut plus tard. Donc, le comité EDI peut servir à ça aussi pour déconstruire ces propos-là.
Et est-ce que, avec des mots comme ça, j'ai l'impression que des fois, c'est utilisé comme buzzword ou comme de manière pour faire des campagnes de marketing. Est-ce que vous avez peur d'une mauvaise utilisation de l'EDI?
De mon côté, non, j'ai pas vraiment une très grande peur parce que c'est sûr que je suis un homme blanc, fait que je peux pas vivre tant de minorités que ça non plus. Là. Donc, c'est sûr que j'ai pas vécu tout ce qui est discrimination en tant que tel, mais j'ai jamais vu une mauvaise communication des valeurs de l'EDI à date. Pour l'instant. Je ne sais pas pour toi, Adini.
Je pense que ça peut des fois être utilisé comme un peu comme un band-aid. Mm-hmm. Tu sais, quelqu'un te dit « Oh, on a des problèmes. Oh, on va commencer un comité. On va voir ce que ça donne. » Mais des fois, le comité, il n'accomplit pas son mandat ou il est juste là pour dire qu'il existe. Puis après, ce qui se fait de façon concrète n'est pas toujours fait.
OK. Fait que ça serait comme une bonne image aussi au niveau de l'Assemblée.
OK. Et une dernière question en lien avec votre comité. Qu'est-ce qui est le plus important, selon vous, de promouvoir l'EDI à l'UDM, plus particulièrement au département de psychologie?
Je pense qu'une caractéristique essentielle, c'est d'inclure les personnes qu'on tente de représenter. La psychologie, c'est un domaine qui est très dominé, je trouve, par des femmes, surtout des femmes blanches. Puis on pense pas souvent à la psychologie, comment ça s'applique pour les minorités culturelles, comment ça s'applique différemment pour les personnes qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas hétérosexuelle et tout. Et je pense que dans la relation d'aide, comme Émeric dit, c'est vraiment important de prendre conscience de ça, le plus tôt possible. Savoir qui on est, puis avec qui on veut travailler, comment on veut travailler avec ces personnes-là.
Parce que aussi, tous les traitements, toutes les thérapies qu'on veut offrir aussi plus tard vont avoir un effet sur le client qu'on a devant nous. Fait que si jamais on a un stéréotype axé sur cette personne-là, notre moyen de l'aider va changer, des fois qui peut aller d'un côté un peu plus mauvais qu'on voudrait aussi.
Mm-hmm. Et je pense que c'est vraiment important aussi pour le cycle supérieur parce que lorsqu'on entre au cycle supérieur et dans les positions de recherche et en carrière après la psychologie, c'est majoritairement des hommes blancs qui sont en position, qui ont l'emploi de chercheur ou de professeur à l'université. Donc, ça serait encore plus important. Je ne sais pas si vous savez s'il y en a un comité EDI au cycle supérieur ou pas, mais je pense que c'est vraiment important par rapport à ça aussi.
Je ne penserais pas.
Je ne sais pas ce qui se passe dans l'assaut des cycles supérieurs en psychologie.
OK, donc maintenant, j'aimerais commencer par plonger dans le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler de femmes, célébrités, activisme et féminisme. Donc, on peut commencer par aborder le concept des célébrités et de l'activisme. Donc, parfois, des célébrités, ils veulent promouvoir des causes activistes. Des fois, ils le font avec des bonnes intentions, mais des fois, ils le font avec des intentions plus mauvaises où on pourrait questionner leurs intentions. Donc, un exemple qui me vient en tête que je pense que l'intention était bonne. C'est en 2021, la chanteuse Rihanna s'est élevée contre la haine des personnes asiatiques devant ses plus de 150 millions de followers sur Instagram. Et elle a participé à des manifestations, s'est associée à l'initiative Start Small et a fait des dons par rapport à des organisations d'Américains d'origine asiatique. Donc, je pense que ça serait peut-être un exemple d'une célébrité qui promouvoit d'une bonne façon ou peut-être de manière plus authentique l'activisme. Je ne sais pas si vous aviez d'autres exemples en tête.
Pour les exemples que j'ai, c'est plus au niveau du capitaliste. C'est comme une fausse façade de féministe que les célébrités peuvent promouvoir aussi. Mm-hmm. Fait qu'il y a comme un spectrum là-dedans qu'il faudrait faire attention de ne pas traverser certaines limites aussi. Là, je pense peut-être à Beyoncé qui, pendant le Musical Awards, si je ne me trompe pas, en 2014, oui. Elle a écrit « féministe » en gros, mot scintillant en arrière dans le background. Il y avait vraiment une grosse chorégraphie qui venait avec ça et tout. Mais en tant que telle, tu sais, elle n'a pas vraiment fait grand-chose après ça non plus. Là. C'est plus un mouvement de ralliement, mais est-ce qu'il y a eu une suite? C'est ça qu'il faudrait savoir par la suite.
Je pense que c'est ça qui arrive beaucoup dans le domaine de la célébrité. Avec l'aspect éphémère des mouvements.
Mm-hmm.
Souvent, je me rappelle, je pense que c'était en 2020, il y a une journée où est-ce que tout le monde a posté un carré noir sur leur feed.
Oui, oui.
Le carré noir n'était pas pertinent à la cause.
Puis c'était ça après l'incident de George Floyd?
Oui, c'est ça. Mm-hmm. Tout le monde a posté un carré noir, mais il n'y a pas eu de ralliement. Ah, comment protéger les personnes noires? Comment mieux entraîner les policiers pour pas qu'ils soient discriminatoires en nature. Puis c'était vraiment juste une petite façade, le temps d'un trend, puis après 5 minutes, tout le monde oublie.
Mm-hmm. Mais c'est ce genre d'activisme, ça s'appelle « performative activism » en anglais ou « militantisme de performance ». Et c'est le fait d'afficher très visiblement un soutien à une cause sans nécessairement agir concrètement dans le même sens, généralement dans le but d'améliorer son image et son capital social. Et j'ai l'impression que c'est très facile de faire si tu es une célébrité parce que ça t'aide à avoir une meilleure image et un public plus grand. Ça me fait penser à un exemple de militantisme de performance, c'est Justin Bieber récemment. Il a 292 millions de followers sur Instagram. Il a posté une story en affichant les mots « Praying for Israel » sur une toile de fond dévastatrice de bâtiments détruits. Mais le problème, c'est que c'était pas une photo d'Israël, mais une photo de Gaza. Donc, au lieu de corriger son erreur, Bieber a rapidement supprimé la photo et l'a reposté avec un arrière-plan plus neutre. Mais comment vous pensez qu'il aurait dû réagir dans cette situation-là?
C'est important d'admettre ses torts, surtout quand il y a les faits devant toi. Tu sais, tu confirmes... Mm-hmm. Je me rappelle, il y a une militante de la Palestine, c'est... Ah, j'ai oublié son nom. Mais bref, il y a une photo d'elle quand elle était jeune qui lance une pierre, qui tente de lancer une pierre mm-hmm. à un policier. Puis quelques années plus tard, ça a été reposté comme si ça se passait avec un enfant en Ukraine. Puis là, tout le monde est genre, oh non, mais c'est pas un petit enfant ukrainien. C'est une jeune palestinienne. Puis oui. elle est grande maintenant. La photo, elle est vieille. Oui. C'est pas le même contexte.
Oui.
Puis c'est vraiment important de reconnaître son tort et dire comme, j'avais pas raison ou je vais faire de la recherche. Je vais essayer de m'informer plus, d'avoir les bonnes informations avant mm-hmm. de dire ce que je veux dire.
Non, c'est ça. Au lieu d'effacer, faire comme si rien n'était, c'est sûr qu'il aurait dû s'expliquer, s'exprimer aussi à sa communauté. Puis c'est le fait aussi, tu sais, ça prouve qu'il n'est pas vraiment au courant des conflits qui se passent ouais. En ce moment. Fait que, d'une certaine manière, est-ce qu'il peut se placer s'il n'a pas vraiment fait ses recherches non plus? Mm-hmm. Ça devient controversé au final, je crois.
Ouais. Et est-ce que vous avez d'autres exemples en tête qui vous viennent quand on parle de militantisme de performance chez des célébrités?
J'ai rien qui me vient tout de suite.
Moi non plus. Tu sais, pour mm-hmm. avoir Taylor Swift, peut-être. Je sais oui. qu'elle a fait une genre oui. de campagne pour le gouvernement démocrate.
Ah, oui.
Mais ça n'a pas été plus loin que ça après. Là, une mm-hmm. fois qu'ils ont perdu, tu sais, elle n'a pas continué à pousser et tout. Oui, elle va inciter les gens à aller voter encore une fois, mais oui. est-ce qu'elle préfère plus de ce côté-là ou est-ce que c'était juste une petite façade?
Je pense que c'était pour l'élection de 2020.
Je pense que oui.
Oui, puis là, ouais. elle a posté sur son Instagram les biscuits Biden-Harris 2020. Mm. Puis c'était tout, tu sais. C'est juste comme, ah oh oui, moi, Taylor Swift, mm-hmm. je vais probablement voter pour ceux-là. Puis là, tu laisses à ton public la décision.
Mm.
Puis ben il y a d'autres questions sur le système à deux partis américain, mais bref.
Ouais.
Ça, c'est autre chose.
Mais ce qui est fou, c'est que même ce petit post comme ça, je pense que ça a eu un grand effet. Je pense que ça a incité plusieurs personnes à voter du côté démocrate.
Mm-hmm.
Donc ça remet en question aussi le fait, est-ce que les célébrités devraient se positionner ou être activistes? Il y a des pour et des contre. Je ne sais pas si vous vouliez en parler.
De mon côté... Je reste mitigé parce qu'en même temps, il y a des célébrités qui font ça pour le fame, tandis qu'il y en a d'autres mm-hmm. qui font vraiment ça parce que ça vient les rejoindre. Puis il y a vraiment un message à propulser vers les autres. Fait que ça dépend tout le temps des raisons, mais s'ils sont capables de garder leur idée puis de la promouvoir jusqu'à la fin, puis que c'est honorable aussi, puis qu'ils ont fait leur recherche au complet, tu sais, oui, il va y avoir des gens qui vont être blessés par ça, d'autres que non, il va tout le temps avoir deux côtés mm-hmm. à la médaille. Mais si c'est bien fait... Oui, fais-le. Mais si tu fais juste ça pour ton image, puis qu'au final, c'est ta célébrité qui va en ressortir un peu plus, rendu là, ça sert à rien.
Puis il y a aussi l'aspect d'occuper un espace public. Puis là, c'est à quel point est-ce que ma vie est publique?
Mm-hmm.
Des questions qu'on se pose, tout le monde se pose la question, « Ah, telle célébrité, elle a sorti avec telle célébrité, on les a vus ensemble, est-ce qu'ils sont meilleurs amis? Est-ce qu'ils ont une relation quelconque? » Puis ta vie est tellement publique. Puis là, je pense qu'il y a des personnes qui peuvent bien utiliser ou mal utiliser cette publicité-là mm-hmm. pour promouvoir des causes qui peuvent être dérangeantes pour d'autres personnes ou pour pousser un agenda quelconque, un peu comme Donald Trump qui a utilisé sa propre célébrité à lui, qui a fait « Je vais être président des États-Unis mm-hmm. ». Puis il l'a fait. Fait que je pense que je sais pas à quel point c'est un devoir d'avoir une voix politique quand tu occupes un espace public.
Mm-hmm.
Considérant le fait que tout le monde cherche déjà un peu qui tu es à tous tes moments, de tes relations les plus intimes aux plus publiques. Mais je pense que c'est une réflexion que les célébrités devraient faire, parce que sachant qu'ils occupent un espace public.
Surtout qu'à Hollywood, avec toute la culture des paparazzis et tout, qu'on n'a pas au Québec, fait qu'on peut pas vraiment savoir c'est quoi, mais tu sais, avec tous les paparazzis qu'on a, suffit qu'un paparazzi prenne une photo, puis après ça, le reste de la population va faire une inférence, puis ça va prendre des millions et des millions de voix différentes. Fait que... Pour faire une conclusion là-dessus, c'est juste impossible aussi.
Et je pense aussi que c'est important d'amener les fans en lien avec les célébrités, comme il y a plusieurs fans vont demander qu'une célébrité prenne position en lien avec un débat politique ou un débat activiste. Et je trouve ça intéressant parce que ça met vraiment en valeur les relations parasociales que les gens ont avec les célébrités. Donc, juste pour décrire rapidement, une relation parasociale se caractérise par des relations étroites entre les célébrités et leurs fans, ces derniers suivant de près la personnalité médiatique de la célébrité. Les fans développent alors un sentiment d'intimité, d'amitié perçue et d'identification avec la célébrité. Donc, cela semble innocent au début, mais le fait de considérer une célébrité comme votre personne de confiance peut entraîner une déception massive lorsque la célébrité fait quelque chose qui ne correspond pas à sa base de fans. Et donc, je pense que pour des nombreux fans, rester silencieux n'est pas acceptable parce que ça ne correspond pas à tes valeurs personnelles en tant que fan. Mm-hmm. Mais c'est intéressant de questionner toute cette relation-là aussi et de questionner, mais les célébrités, c'est pas ça leur expertise, l'activisme. La plupart d'entre eux sont comme acteurs, chanteurs et tout. Donc, est-ce que c'est intéressant d'entendre leur opinion ou pas?
Oui et non, mais c'est comme tu disais, t'sais, souvent les fans, ils vont se voir dans les célébrités qu'ils aiment le plus, comme Beyoncé avec beaucoup de jeunes femmes, jeunes filles noires aussi, au niveau de leurs cheveux, leur corps. Fait qu'avoir cette projection-là, ça peut être toxique d'une certaine manière aussi, puis c'est là qu'il faut faire attention, je crois. Mm-hmm. Parce que si tu projettes trop, tu vas vouloir ressembler de plus en plus à cette personne-là, puis si au final, tu vois que vous êtes vraiment complètement sur deux espaces complètement différents, c'est là que ça peut avoir des répercussions négatives aussi. Mm-hmm.
Je pense aussi, souvent, on a une fausse impression de connaître une célébrité, comme si c'était ton ami ou ta tante ou ta cousine. T'es convaincu que... C'est un peu comme dans les documentaires historiques, quand ils parlent de figures qui sont mortes depuis des siècles, ils disent « Élisabeth Ire, elle n'aimait pas tel type de personne. » Puis ils parlent comme si c'était leur meilleure amie. Je pense qu'on a ce type de relation-là un peu avec les célébrités. Puis là, tu dis « Moi, ma meilleure amie, il y a des choses que je voudrais pas qu'elle dise. Il y a des choses que je voudrais qu'elle dise. Il y a un niveau de conscienciosité sociale que je veux que ma meilleure amie aille. » Fait que là, quand cette figure parasociale qui est la célébrité n'est pas comme ton meilleur ami, ne partage pas une opinion comme toi, tu commences à te penser, est-ce que je devrais être fan de cette célébrité? Est-ce que j'ai vraiment autant de choses en commun avec elle que je pensais? Est-ce que moi, je voudrais pas être plus que ma célébrité, ressembler plus, ne pas porter d'opinion ou porter une opinion, bref. Ça crée un peu une dissonance, peut-être.
Ouais, c'est ça. Puis, au final, tu sais, on voit peut-être plus les célébrités comme un objet en tant que tel qu'on peut utiliser pour nos propres moyens, je pense.
Mm-hmm,
fait que c'est là qu'il faut faire attention puis qu'il faut prendre un temps de réflexion pour voir si vraiment c'est comme ça qu'on perçoit des personnes humaines ou nous-mêmes aussi. Hein.
Aussi, là-dessus, il y a le celebrity branding. Tu sais, comme une célébrité peut être la face de sur ta boîte de céréales préférée, peut être sponsorisée par Nike, peut être sponsorisée par Adidas, peu importe, tu sais, par Apple, une compagnie.
Comme CoverGirl aussi, avec tout leur mouvement, Katy Perry aussi, avec son parfum qui disait que ça sentait le féminisme.
Tu sais, comme toutes ces choses-là qu'une célébrité peut faire, qui sont plus liées au capitalisme qu'au bien-être général, qu'au bien social, tu sais. Fait que tu dis, si t'es capable de mettre ta tête sur une boîte de céréales, pourquoi pas comme faire de la petite recherche puis poser ton opinion de vive voix pour que tout le monde le sache que toi, t'es de tel bord ou de tel bord d'un conflit ou d'une controverse.
Tu sais, au final, ils sont pas tant différents que nous. C'est juste que le seul point qu'ils ont, eux, c'est qu'ils sont mis devant des caméras et des micros puis que leur voix, au final, va avoir un impact. Fait que, tu sais, nous, on pourrait dire n'importe quoi, puis ça dépend avec qui on est aussi, mais on n'aura pas autant d'influence qu'une personne avec autant de fame puis de followers et tout. Mm-hmm. Fait que c'est vraiment juste ça qui nous sépare d'eux. Ça reste qu'au final, ils ont leur propre voix, on a la nôtre aussi, puis il faut essayer de distancer les deux.
Puis ça revient à remettre en question pourquoi on donne autant de pouvoir aux célébrités. Est-ce qu'on devrait arrêter de les idéaliser et de les mettre... De leur mettre sur un rang social très, très haut? Est-ce qu'on devrait plutôt mettre notre énergie et nos efforts envers quelque chose de plus concret et quelque chose qui aide la cause activiste qu'on est en train de supporter?
De mon point de vue, même si on voudrait, je pense qu'on serait jamais capable d'arrêter parce que c'est tout le temps plus facile aussi de projeter nos problèmes sur une autre personne.
Ouais.
Fait qu'en même temps, si on est capable de juste rester assis puis regarder les choses aller de son propre train, je pense que c'est une tendance qui est innée en nous aussi, puis qui va être difficile à défaire, puis qui prendrait beaucoup, beaucoup de temps. Surtout avec les médias sociaux en ce moment, c'est très difficile. On a, pour l'exemple, on a le corps parfait, tu sais, l'obésité, c'est pas tant à la mode, beaucoup de gym. Je regarde les enfants au secondaire, tu sais, ils sont tous au gym H24. Moi, c'était pas une réalité que j'avais dans mon temps non plus, là. Fait qu'il y a plein d'aspects de même qu'il faudrait vraiment décortiquer puis séparer avant de pouvoir arrêter de propulser nos idéaux sur les célébrités.
Aussi, je pense que c'est tellement facile pour nous de mettre une célébrité sur un piédestal. Elle a de l'argent, elle a de la notoriété, on la voit toujours maquillée, tu sais, comme on est convaincu que leur vie, c'est tellement parfait comparé à comme ma vie, je paye mon loyer, je paye mes études. Peu importe, tu dis, cette célébrité-là, elle n'a pas ces problèmes-là. Elle doit avoir un certain rang, un certain niveau, quelque chose que moi, j'ai pas, puis j'aimerais vraiment ça l'atteindre. Fait que tu utilises la célébrité comme un moi idéal que tu aimerais atteindre, sans réaliser que cette personne-là est peut-être même pas son moi idéal à elle. Tu sais, qu'elle aussi, elle a des problèmes. C'est pas les mêmes problèmes, mais tu sais, tout le monde a des problèmes. Bref, de savoir les mêmes enjeux qui jouent dans sa vie à elle. Puis comme, on pense pas à ça, on pense vraiment à la perfection, à l'image qu'on voit dans les médias qui est bien découpée. Tu sais, ils ont des stylistes, ils ont des maquilleurs professionnels, ils ont un nutritionniste, un entraîneur. C'est toutes des choses que nous, on n'a pas accès parce qu'on n'a pas le budget.
Puis après ça, ça revient encore à la société capitaliste individualiste. Si on a la même pensée que l'argent, c'est le bonheur, plus t'en as, plus tu vas être heureux, mais c'est toute une éducation qui est à faire là-dessus pour déconstruire ce système de pensée-là aussi. Hein.
Oui, puis je pense aussi que c'est vraiment plus facile de responsabiliser les célébrités comme en écrivant un commentaire « Ah, oh, t'aurais dû dire ça » ou « t'aurais dû parler de ça » que de soi-même faire une action comme appeler les législateurs si tu veux qu'une loi soit changée ou parler à des politiciens pour changer les politiques ou la façon de penser. Je pense que c'est plus facile d'écrire un commentaire que de faire des actions concrètes, puis ça revient à notre responsabilité individuelle par rapport à l'activisme.
On s'en rend pas compte aussi, mais tu sais, on a tout le temps cette opportunité-là aussi, entre autres à cause des médias sociaux. Il va tout le temps avoir des trolls ou des insultes, il va avoir l'intimidation, la discrimination. On a tout le temps un moyen d'agir contre ça aussi. C'est juste, vu que c'est sur les médias sociaux, souvent c'est loin des yeux, loin du cœur, fait qu'on fait rien là-dessus. Puis après ça, ça peut être autant dans la rue ou dans le métro, on va voir quelqu'un s'agresser. Est-ce qu'on va aller s'approcher de la personne, de la victime, puis essayer de l'aider? Souvent, on va essayer de se distancer de ça aussi parce qu'on a peur d'une certaine manière, puis on ne sait pas comment agir non plus.
OK. Donc maintenant, j'aimerais discuter davantage du féminisme de célébrité. Donc le terme féministe de célébrité, c'est un terme qui explique un féminisme très de base, sans politique, qui contre l'inégalité des genres. C'est une identité et une étiquette, en guillemets, politique, bien qu'il soit toujours lié à la consommation, l'individualisme et à la culture de la célébrité. Certains affirment que le féminisme de célébrité confond la conscience de l'inégalité des genres avec le féminisme, ce qui désavoue les facteurs sociaux, culturel et économique qu'il a créé. Vous en pensez quoi quand j'explique cette définition-là?
Je pense que, tu sais, quand on voit une femme accomplie qui est une célébrité, on la voit, elle est un avec son être sexuel, elle vit sa meilleure vie, elle est une avec son art. On l'admire, on se dit, waouh, comme, c'est la réussite, c'est l'égalité des genres qu'on s'imagine. On est comme, oui, ça, c'est ça, l'égalité des genres. Mais dans le fond, elle, cette révolution qu'elle fait pour elle-même, l'espace qu'elle occupe pour elle-même, c'est pas pour l'égalité de tous, nécessairement. C'est souvent quelque chose qui est très personnel, très individuel. Puis là, quand tu touches à une problématique qui l'affecte pas nécessairement, peut-être que c'est la grossophobie ou le racisme ou l'homophobie, quelque chose qui l'affecte pas nécessairement directement, là, elle est moins prête à dire que tous les corps sont beaux, prête à dire que tous peuvent accepter leur sexualité, tu sais. Fait que c'est très de surface, comme tu dis.
Puis je crois que toutes les célébrités, tu sais, au fond d'eux, ils ont des bonnes intentions de le faire. C'est juste qu'au final, la méthode qui est faite pour utiliser ça. T'sais, c'est vraiment plus au niveau de leur bien-être à eux que pour le bien-être d'une communauté au complet. Puis pour ce qui est du féminisme aussi, souvent, il va manquer d'intersectionnalité dedans. Fait que comme tu dis, tout ce qui est âgisme, grossophobie, orientation sexuelle, le contexte social aussi, pauvreté, riche, n'importe quoi, ça va souvent être mis de côté. Puis souvent, les célébrités ont beaucoup plus d'argent que nous. Fait que souvent, ils ne voient pas ces côtés-là non plus.
Puis je pense aussi que le féminisme de célébrité, ça... C'est pas une menace. C'est pas une menace à l'ordre social ou au système qui leur permet de vivre ainsi et qui les privilégie. Donc, c'est à questionner, est-ce que c'est un féminisme véritable ou fondamental si on remet pas en question ces systèmes d'oppression?
Bien, je pense que bien fait, oui, il peut être bon féministe, t'sais, parce que ça... Tu sais, on prend Beyoncé, par exemple, c'est une femme noire, fait que déjà là, c'est une femme et noire, fait qu'il y a déjà le racisme et le féministe qui vont... ben, l'antiracisme, pardon, là, et le féministe qui vient se rejoindre là-dedans. Ouais. Fait que bien fait, tu sais, elle peut rejoindre vraiment une grande communauté qui peut jouer ensemble puis mettre leurs caractéristiques personnelles de côté pour créer une nouvelle réalité ensemble qui peut être bonne et avoir beaucoup d'effets positifs après, là.
Puis aussi, mais pour ajouter là-dessus, comme ce que tu as dit puis sur l'intersectionnalité, tu sais, c'est un jeu de classe aussi. Comme c'est d'où on commence, où on commence et où on finit, c'est pas la même chose. Fait que maintenant qu'elle est comme elle est distante de sa réalité initiale, tu sais, comme il y a beaucoup de jeunes femmes noires qui l'admirent, qui disent moi aussi je veux être comme Beyoncé, tu sais, moi aussi je veux être une célébrité, je veux que ma voix porte, je veux que Disney m'appelle pour que je sois dans le Roi Lion, tu sais. Mais sa réalité à elle, maintenant qu'elle a l'argent, maintenant qu'elle a la notoriété, c'est plus la même réalité. Fait que comme, c'est pas... Ça va pas être un féministe qui va rejoindre tout le monde, peu importe la personne à la tête de ce féminisme-là, la personne qu'on s'imagine être représentative de toutes nos réalités, il y a toujours le jeu de l'argent et de à quel point ta voix porte. Fait qu'aussitôt que t'enlèves ces deux choses-là, c'est difficile pour quelqu'un de s'identifier au même féministe que les célébrités promouvoir.
Ouais.
Ouais.
Et j'ai aussi lu un article quelque part qui disait que le féminisme de célébrité, c'était comme une porte d'entrée du mouvement, mais c'est pas comme le féminisme en tant que tel dû au privilège et à la richesse des personnes qui sont comme les porte-parole, on va dire, de ce mouvement-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui.
Oui, moi aussi. Non, vas-y.
C'est très de base. C'est très... La première étape, quand tu te rends compte que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon dans la société, puis c'est là que t'es rendu. T'es pas allé plus loin. Pourquoi? Non, comment ça se fait? Ouais. C'est quoi les systèmes en jeu?
C'est quand la dernière fois aussi qu'il y a eu une marche justement pour les droits des femmes, côté activiste, qui n'est pas relié à une célébrité en tant que telle ou qui n'a pas été engendrée par une célébrité. Moi, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler non plus.
Donc maintenant, j'aimerais discuter davantage de Taylor Swift. Donc, elle se considère féministe depuis 2014, mais plusieurs la critiquent de promouvoir du féminisme blanc et seulement lorsque cela l'avantage personnellement. Voulez-vous discuter du féminisme blanc? C'est quoi?
Le féminisme blanc, c'est, selon moi, c'est une forme de féminisme qui est très limitée. Elle ne considère pas plus loin que les femmes blanches, hétérosexuelles, cisgenres de comme classe moyenne. T'sais, ça, et même à ça, il y a l'impact de la grossophobie aussi. Comme si t'es une femme qui est un peu ronde, ben là, ça se passe plus trop pour toi, le féminisme blanc. Je trouve que c'est très exclusif. C'est comme une classe de personnes qui se limitent à leur propre identité et qui pensent de façon très unidimensionnelle. C'est comme être femme ou être homme. Même à ça, comme... La fluidité du genre n'est pas impliquée dans leur processus de réflexion quant au féminisme. Ça, c'est ma petite lancée.
Ben, j'avais jamais entendu parler du terme white feminism avant, féministe blanc. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'apprendre ça aussi aujourd'hui. Puis, Taylor Swift, je connais pas sa réalité non plus. C'est pas comme si j'avais vécu une vie de fame et de tout. Là. Fait que, pour partir un mouvement aussi, il faut que tu ailles du temps, j'imagine, pour mettre corps et âme là-dedans si tu veux vraiment que ça allait au bout. Puis, tu sais, avec toutes ces tournées qu'elle a partout dans le monde, avec toutes les apparitions qu'elle fait un peu partout, tu sais. Oui, j'imagine que son intention était bonne, encore une fois, là-dedans, mais je pense pas qu'elle peut continuer jusqu'à la fin pour vraiment inclure tout le monde aussi en même temps.
Mais il y a plusieurs choses qu'elle fait qui sont questionnables. dont fréquenter un homme raciste et misogyne, oui. Mary Hill.
Je me rappelle de ça.
Oui.
Ouais, ben dans le fond, il y a ce phénomène qui arrive souvent avec des femmes dans des relations hétérosexuelles, où est-ce qu'elles vont excuser leur partenaire. Dans le fond, ton partenaire, il a fait quelque chose de raciste, ou il a fait quelque chose de sexiste, ou il a fait quelque chose d'homophobe, ou dit quelque chose de grossophobe, mais il ne te l'a jamais dit à toi. Fait que pour toi, c'est pas un problème.
Non, c'est pas une attaque à elle.
Non, c'est pas une attaque personnelle. Fait que vu que c'est pas une attaque personnelle, tu te dis, ben, il n'y en a pas de problème. Il peut faire comme il veut. C'est un grand garçon. Tu sais, il a ses propres opinions. Puis là, tu négliges le fait que, comme, tout le monde sait qu'il a fait des choses louches. Tout le monde sait que c'est pas une personne qui aime particulièrement les gens d'une ou telle groupe social.
Est-ce que vous pensez que ça c'est inclus dans son féminisme blanc ou c'est questionnable?
Parce qu'en même temps, son féminisme, je crois, selon moi, qui est parti du fait avec Scooter Braun, je sais pas si c'est quoi son titre, réalisateur maison de disques ou whatever, mais tu sais, qui avait les droits sur ses disques puis qu'elle n'avait pas été confrontée là-dessus non plus. Ouais. Fait qu'elle a dû recommencer au complet, réenregistrer ses chansons et tout. Puis aussi du fait qu'elle a déjà été agressée sexuellement, qu'elle avait apporté ça en cours puis qu'elle avait gagné au final. Fait que je pense que ça a été vraiment ses points de départ sur le féminisme, mais qui s'est vraiment centré sur ses expériences vécues à elle aussi puis qu'elle n'a pas été plus loin non plus.
Ouais, que c'est ses expériences personnelle, puis que, comme tu dis, qu'elle dépasse pas ça.
Non.
Ouais. Puis aussi, il y a la vidéo You Need to Calm Down qui a la présence des drag queens et d'autres personnes de la communauté LGBTQ, mais elle reste silencieuse par rapport à des législations qui attaquent, écartent et blessent cette communauté-là. Donc, ça remet vraiment en question ses intentions, selon moi, parce qu'elle le fait pour une musique vidéo, mais après, ça s'arrête là.
Ouais, c'est, je pense, des fois, comme toute raison, encore le capitalisme. Quand tu veux rejoindre une audience, quand tu veux chercher quelqu'un qui va, pour qu'il fasse partie de ton public, tu sais, t'essaies de chercher ce qu'il va aller chercher. Fait que là, tu dis, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes de la communauté LGBTQ qui se sentent, qui se voient en moi d'une certaine façon. Fait que je vais aller chercher des personnes qui les représentent pour les mettre dans ma vidéo. Comme ça, ils vont dire « Oh wow, Taylor Swift, elle a fait une vidéo avec des drag queens. Elle est ally, tu sais. » Puis dans le fond, ça dépasse pas la surface, ce qui lui permet à elle d'en profiter.
Puis souvent aussi, ça va être stratégique, ça va aller avec des événements de l'actualité aussi, comme les élèves trans aux États-Unis en ce moment, ils vont se faire beaucoup discriminer là-dessus, mais ça fait quand même quelques années que c'est commencé. Fait que de mémoire, You Need to Calm Down était sorti en même temps que ça. Puis pour ce qui est après ça, sa campagne électorale aussi, pour les démocrates et tout. Fait que il y a tout le temps des petits aspects qui vont engendrer ça. Fait que c'est pas 100% intentionnel au final.
Et c'est pas non plus intersectionnel parce qu'elle a tellement d'opportunités de parler de l'oppression que les femmes qui sont pas blanches vivent, mais elle le fait pas. Donc, c'est peut-être dans son silence aussi qu'on peut voir le féminisme blanc.
Souvent, le monde oublie que le silence a beaucoup plus d'impact que les paroles qu'on peut porter aussi. Donc, des fois, juste faire un petit coucou, ça peut aider aussi leur cause. Ouais.
Mais c'est, encore une fois, on peut questionner le fait que est-ce qu'elle devrait promouvoir le féminisme ou non, parce qu'elle a tellement d'influence et de pouvoir, comme on a mentionné précédemment, elle avait promu le Parti démocrate, et ensuite elle avait incité les gens à s'inscrire sur les listes électorales. Et il y avait eu des différences importantes. Il y avait beaucoup plus d'inscriptions électorales aux États-Unis. Et j'ai aussi vu un sondage, je ne sais pas à quel point c'est la vérité, ou je ne sais pas si ça vient de où cette donnée, mais il disait que comme 18 % des voteurs disaient que si Taylor Swift mettait de l'avant un parti, ils allaient voter pour celui-là. Donc, c'est vraiment à re-questionner les relations parasociales, mais aussi le fait qu'elle a un pouvoir et une influence aussi importante.
Je trouve que ça va surtout avec notre société d'aujourd'hui, de la génération d'aujourd'hui, avec les médias sociaux, tu sais, c'est difficile de se créer une personnalité qui est propre à nous, qui vient chercher aussi nos propres valeurs. Fait qu'en même temps, quand tu vois toutes les célébrités que t'aimes, que t'écoutes, que tu regardes à chaque jour, dire telle chose, faire telle affaire, tu auras plus tendance à aller vers eux puis faire les mêmes choses, même si ça va à l'encontre de ce que tu crois intérieurement, que t'as pas encore pris le temps de développer et tout. Au niveau des gouvernements démocratiques, les élections et tout, c'est là que ça devient dangereux aussi, parce qu'il y en a qui vont juste aller voter parce qu'ils veulent suivre la personne et être un peu plus comme eux. Puis au final, ça pourrait avoir des conséquences vraiment dommageables sur une société au complet.
Et aussi sur être comme la personne que tu idolises, là, ta célébrité préférée, comme les différents fandoms. Ils ont tous des noms cute, là, comme les Gaga.
Les Swifties.
Les Little Monsters, puis les Swifties de Taylor Swift. Comme, ils vont devenir les plus grands défenseurs de leur célébrité, peu importe son tort. Mm-hmm, donc là, ça fait comme que c'est pas juste la célébrité en tant que telle qui a une influence, tu sais, comme indirecte sur tout ce qui se passe, mais aussi ses fans qui deviennent des représentants directs qui disent « Oh non, tu peux pas critiquer Taylor Swift, c'est une femme qui réussit, tu critiques toutes les femmes. » Puis là, c'est l'étendue de leur réflexion là-dessus. C'est pas comme « Ah, Taylor Swift, elle a un avion, tu sais, comme... She has a private jet. » Comme, c'est pas ça, la réflexion non plus. Fait que, comme, on idolise la célébrité au point de la défendre comme si c'est notre frère qui a été accusé de quelque chose qu'il a pas fait.
Puis je trouve, ça va, tu sais, avant tout ça, tu sais, c'était les religions aussi, là. Fait que, tu sais, c'est comme idéaliser quelqu'un en tant qu'un dieu ou une déesse, au final. Puis...
Ouais.
C'est comme reculer en arrière. Ouais. Moi, je vois ça d'une certaine manière. Là. Je dis oui, on évolue, mais quand on agit comme ça, moi, Taylor Swift, pour certains, c'est comme Jésus. Fait que je suis comme, est-ce que c'est tant mieux ou non?
Mais aussi, je pense que les célébrités sont conscientes de leur fandom qui vont tout faire pour les défendre. Comme, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est Taylor Swift, dans son speech des Grammys, elle a pas parlé de... Elle aurait pu parler de plein de causes activistes, mais elle a décidé de parler de la promotion de son album et ça, c'est incitant pour les fans parce qu'ils deviennent vraiment excités puis ils se demandent c'est à propos de quoi et tout. Donc, je pense qu'il y a aussi une responsabilité de la célébrité là-dedans.
Mm-hmm.
Oui.
Parfait. Donc, on pourrait aller plus davantage dans les féminismes de Beyoncé. Donc, Beyoncé a cultivé une image de force et d'indépendance pour les femmes du monde entier et l'a utilisée de manière positive pour encourager les femmes à se défendre. Tu avais mentionné juste au début de l'épisode qu'elle avait fait un immense signe féministe avec des brillants.
Ouais.
Puis elle avait eu une chorégraphie. Donc, vous, qu'est-ce que vous en pensez du féministe de Beyoncé?
Je suis vraiment pas experte dans le féministe de Beyoncé. Je sais pas, parce que toute sa musique que j'ai écoutée, c'est quand elle faisait Destiny's Child, pis c'est comme quand elle était émergente, genre, comme Single Ladies, bref. Fait que j'ai pas une grande conscience de comment elle est maintenant, mais je trouve que, comme la plupart des célébrités, c'est peu importe c'est quoi tes origines, peu importe, c'est vraiment d'où tu viens, qui tu es, tes identités, tu vas toujours te retrouver, je suis maintenant au summum de la pyramide. Et donc, tout activiste que je fais, c'est pour mon propre bienfait. Puis ça peut avoir des bonnes intentions, mais tu peux jamais voir les bonnes intentions se découler pleinement. Ouais.
Puis, tu sais, ça revient au capitalisme, ça, encore une fois, là. Beyoncé, j'imagine que, encore une fois, ses intentions étaient bonnes, mais au final, ça revient aussi centré sur elle. Tu sais, elle a fait ça de mémoire parce que dans l'industrie, au niveau des femmes et des hommes, c'est pas égalitaire encore au niveau des payes, le revenu et tout. Ouais. Fait que, tu sais, ça revient au centré sur le jeu au lieu d'être un mouvement global, au final, en tant que tel. Là.
Puis même dans l'industrie, étant elle-même une femme noire, tu sais, c'est une question pas juste de genre, mais aussi une question de race. Puis là, bien, il y a les deux qui s'en jouent comme elles doivent. J'ai vu tellement de choses sur les femmes noires dans Hollywood qui travaillent comme 5 fois au moins plus fort que tout le reste pour faire des salaires en dessous. Pour jamais avoir la reconnaissance qu'elle mérite. Ce travail se démène pour aucune reconnaissance qui vaut quelque chose aux yeux des gens. T'sais. Fait que...
Ouais. Puis c'est là qu'on se pose des questions aussi sur... Tu sais, on idéalise les féministes et tout, mais tu sais, après ça, on a des infirmières, on a des docteurs, on a des ambulancières.
Des enseignantes.
Aussi, c'est vrai. On a plein d'autres personnes comme ça que J'imagine, à cause de toute l'attention qu'on porte sur les célébrités, on met de côté aussi, puis qu'on oublie qu'eux aussi, c'est des personnes très importantes dans notre société, dans notre évolution, dans notre éducation. Fait qu'il y a... qu'il faut recentrer aussi nos valeurs puis nos priorités là-dessus.
Donc, pour finir l'épisode, j'aimerais parler du Barbie movie, que je pense que c'est un très bon exemple du féminisme de célébrité ou des différents types de féminisme qu'on a parlé. Donc, allez-y.
Je pense qu'à Disney, tu as beaucoup de choses à dire sur ce sujet.
le Barbie movie. Tu sais, je suis allée le voir au cinéma. J'étais vraiment contente. J'étais comme, c'est le fun comme film. Mais c'est tout. C'est le fun comme film. Mais ça n'a pas, une réflexion profonde sur les complexités de la société. C'est très, très, très de surface. Comme juste le fait que, comme, je sais pas, c'est Barbie dans un monde idéalisé, pas où femmes et hommes sont égaux, comme dans le rêve qu'on s'imagine un jour. Toutes les formes d'oppression ne vont pas être un problème. Tout le monde va être égal. Tu vas être considéré pour qui tu es, pas ce de quoi tu as l'air, les personnes envers lesquelles tu es attiré, peu importe. C'est vraiment juste comme Barbie, elle vit sa vie de toutes ses vies, puis il y a les Ken qui traînent, qui vont à la plage, qui font du beach, bref. Je trouve que c'est un film qui est très de surface. Comme ça, ça va pas creux.
Non.
Pas toujours.
C'est comme tu me dis tantôt, ça parle de patriarcat, mais le capitalisme là-dedans, ils n'en ont pas mentionné une fois.
Non, c'est ça. Il n'y en a pas de problème, le capitalisme.
Oui.
Puis surtout que c'est dirigé par Mattel en arrière. Fait en même temps, eux, ça leur fait une pub. Mm-hmm. Puis j'imagine que ça va avoir un effet sur leur vente avec toutes les nouvelles poupées qu'ils vont pouvoir vendre aussi, oui. Quelque chose de même. Là. Mm-hmm. Puis juste après ça, il y a eu Margot Robbie est en train de faire un film sur les Sims. On a eu des rumeurs sur un film avec Uno. Fait que je pense que c'est juste, ça a commencé avec Barbie, que oui, a pu avoir des dénivelés positifs, mais après ça, si tu regardes Sims, Uno, tout, ça revient joindre qui après ça? Est-ce que ça revient joindre des mouvements racistes, féministes, sur l'âgisme? Je penserais pas.
Puis je pense aussi, comme il y a des petits éclats de joie dans la représentation qu'il y a eu dans Barbie, tu sais, comme la Barbie présidente, c'est une femme noire, à la peau foncée. Puis comme, moi, quand j'étais petite fille, je voyais jamais ça, là. Puis je suis comme, moi aussi, je peux être présidente. T'sais, fait que j'imagine toutes les petites filles qui sont comme, moi aussi, je peux être présidente Barbie, tu sais. Même si c'est pas encore arrivé dans la vraie vie. Bref. Dans le monde de Barbie, c'est maintenant possible, tu sais. Fait que comme, ça peut venir chercher des personnes qui avaient jamais été cherchées avant aussi.
C'est comme tu disais tantôt aussi, Barbie avec un moyen de pouvoir aller chercher plus de communautés aussi, comme les Autochtones. Il n'y a pas tant de représentation.
Non zéro. Plus, les c'était Premières vraiment Nations. Pas positif. Ils n'ont pas apprécié. J'ai vu plein de choses se passer sur Internet après ça. Controverse, Barbie, les nominations pour les Oscars.
Oui, j'allais en parler. Qu'est-ce que vous en pensez?
OK. Je pense que quand, tu sais, Ken a gagné beaucoup de prix, là. Ken a été fancy.
Puis Ken a fait ses chansons, tu sais. Ouais, il y avait tellement d'autres chansons aussi dans le film.
I'm just Ken. Bref. tout le monde était comme, wow! Ce film sur Barbie, icône féministe, si on veut poser Barbie comme icône féministe. Puis c'est un gars par rapport, un blond, qui gagne tous les prix. Puis aussi, dans les nominations, c'est que Margot Robbie, pour meilleure comédienne, n'avait pas été en nomination. Puis la réalisatrice, Greta Gerwig, n'avait aussi pas été en nomination.
Mais
America Ferrera, qui a fait le speech qui a le plus marqué les gens de Barbie, tu sais, que comme, tu peux jamais faire la bonne chose, tu peux jamais être la meilleure mère, tu peux jamais être le meilleur employé, tu peux jamais être comme la meilleure fille, la meilleure femme, peu importe.
T'sais. Ça attend que tu prennes les devants, mais il ne faut pas que trop t'en fasses parce que les hommes ont quand même un mot à dire là-dessus.
Ouais, c'est ça. Ouais. Celle-là qui a délivré comme le plus grand, le monologue. Elle était en nomination, mais personne n'en parlait.
Non.
Parce que tout le monde était dévasté que des femmes blanches n'avaient pas été en nomination. Ce qui va aussi avec comme... Ça arrive tout le temps aux femmes de couleur de ne pas être en nomination. Tu crées des films qui ont un impact sur la société. Tout le monde est comme chamboulé. Puis là, c'est comme... C'est quoi le réalisateur d'Oppenheimer, là?
Christopher Nolan.
Christopher Nolan, il a gagné tellement d'Oscars dans la vie, là. Tellement d'Oscars! Puis je suis sûre que c'est un très bon réalisateur, mais ça reflète que, comme, l'industrie est biaisée contre tout le monde qui n'est pas un homme blanc hétéro.
Puis, tu sais, ça parlait d'un film de la Première Guerre mondiale, je
Deuxième.
Crois. Deuxième. Avec
nucléaire.
La... C'est ça, tu sais. Je veux dire, oui, c'est historique, oui, c'est passé, mais...
Puis même à ça, il y a des critiques sur ce film-là, sur comment... Ils ont représenté le fait qu'ils ont détruit du monde, tu sais, qu'ils ont fait des tests sur des terres autochtones
mais
pour
un,
puis que les bombes nucléaires au Japon, comme c'est pas pourquoi est-ce qu'on raconte la même histoire,
c'est non, c'est
il était triste.
Surtout qu'avec Barbie, film féministe, je pense qu'il aurait tellement pu faire plus. Puis en même temps que ça sortait, ben, ça sortait en même temps qu'Oppenheimer, ouais. ça y a fait ombrage aussi un peu dessus.
Oui. Mm-hmm. Mais je pense aussi que ce qui est intéressant à se questionner, c'est que je pense que Margot Robbie, elle n'a pas été nominée, mais la première femme autochtone a été nominée, oui. si je me rappelle
Lily
bien.
Lily Gladstone.
Oui.
Ah.
Oui.
Donc, c'est comme, c'est triste, mais pas tant, c'est quand même réconfortant de savoir que la première femme autochtone a été nominée.
Je pense que c'est réconfortant, mais c'est aussi triste.
Est-ce que ça pourrait être stratégique aussi, d'une certaine manière?
Oh, je sais pas si l'Académie sont capables d'être stratégiques. Mais je veux dire que c'est tellement triste de vivre encore dans un monde de premiers. On se dit que... Ah, tout le monde se dit, il y en a plus de racines. C'est du monde, tu leur parles, puis ils sont genre, mais non, là, il y en a plus de problème, là. Tout le monde a des droits égaux, mais pas vraiment, là. Non, puis on est encore dans un monde où, comme, il y a seulement une femme qui a gagné meilleure comédienne ou Oscar, une femme noire,
mm-hmm.
qui a gagné meilleure comédienne ou Oscar, genre, une sur comme presque 100 ans de cérémonie, tu sais. Puis, ah!
Ça sont dit, la job est faite, personnellement.
Ouais, il y en a pas de problème. C'était Halle Berry en genre 2004. Genre, ça fait tellement longtemps.
Oui.
Ouais.
Ça fait tellement longtemps.
Tu sais, on est 20 ans plus tard, puis...
Il y a rien qui se passe.
Non.
Il y a rien qui se passe.
On en a parlé brièvement, mais vous pensez quoi du fameux monologue de Barbie? Est-ce qu'il est tant révolutionnaire?
Non.
Pas révolutionnaire. Oui, il a été touché des personnes, mais tu sais, moi, c'est une réalité que j'ai jamais vécue. J'écoutais mm-hmm. le monologue, je trouvais ça émouvant, je trouvais ça touchant, mais je me posais quand même la question, est-ce que c'est véridique? Est-ce que ça représente vraiment tout le monde?
C'est véridique. Mais l'affaire, c'est que ça, c'est une réflexion que j'ai facilement eue à genre 17 ans.
Okay, ouais,
comme ça. Avec mes amis, tu sais. Comme c'est pas...
T'avais pas besoin de poupée Barbie là-dedans?
Non, c'est ça, j'avais pas besoin que comme... Une maman qui joue avec des Barbie, comme me le raconte, tu sais. C'est quelque chose que, comme, j'ai la réflexion, comme, tu peux jamais, comme, si t'es bonne à l'école, ils vont dire que, ah, oh, mais tu vas jamais être aussi bonne que un gars, ou comme, si t'es mère, ils vont toujours dire, comme, ah, oh, mais tu pourrais travailler plus d'heures, ou juste la discrimination au travail, tu sais, entre, c'est quoi, c'est comme un baby bonus pour les papas.
Ouais.
Comme les pères, quand quelqu'un te dit, ah, oh, moi, je suis père, genre, j'ai 3 enfants, puis là, c'est comme, ah, oh, il doit être responsable, il doit être, comme, une personne comme qui contribue à la société, peu importe, il doit être dévoué. Puis quand une femme dit « j'ai 2 enfants », ils sont comme « oh non, elle va peut-être partir en congé de maternité.
» Pas encore.
« Ses enfants vont... l'école va appeler. » Tu sais, comme c'est toutes des choses dont j'étais déjà consciente. C'est juste... c'était beau de le voir sur le grand écran, tu sais.
Ouais.
Ouais.
C'était du glamour, peut-être, au final.
Peut-être.
Puis je pense aussi que... les personnes à qui le speech ça a vraiment touché, c'était peut-être les femmes de générations plus vieilles oui. que nous.
Mm.
Parce que nous, on est quand même sensibilisés à ce genre de discours. Et avec les réseaux sociaux et tout, c'est plus facile d'en être conscient. Mais j'avais vu que comme les mères étaient vraiment touchées par ce discours parce qu'eux, ils ne l'avaient pas tant entendu mm-hmm. quand elles étaient jeunes. Donc, c'est peut-être...
Ouais, c'est peut-être ça, comme... Tu sais, souvent, on félicite tellement les mères pour leur travail. Elles le méritent. Elles méritent, mais elles méritent aussi le repos, tu sais.
Oui.
Il y en a, elles ne sont pas reposées mm-hmm. depuis que leur premier enfant est né, tu sais.
Oui.
Puis souvent, encore aujourd'hui, c'est avoir des mères au foyer, un peu moins des pères au foyer, même si c'est une tendance qui arrive un peu plus souvent, mais ça mm-hmm. reste qu'ancré historiquement, ça va être la femme qui va s'occuper un peu plus des enfants,
ouais,
qui va faire la discipline et tout. Tandis que le père va garder le rôle du cool dad, qui laisse des permissions de temps en temps, puis mm-hmm. c'est le fun.
Puis ça rentre aussi dans le fait qu'on dévalorise le travail des femmes énormément.
Mm-hmm.
Comme la différence entre comme, les façons que les métiers sont salariés selon le fait qu'ils soient traditionnellement féminins ou masculins. Il y a des personnes qui sont encore convaincues qu'être femme au foyer, être mère au foyer, que c'est facile. Que c'est pas du vrai travail parce que t'es pas sortie dehors. Moi, j'ai travaillé 8 heures tout le long de la journée dans un bureau. Puis toi, t'as fait quoi? T'as fait le ménage. C'est pas difficile de faire le ménage. C'est comme juste cette perception-là qu'on a, qui est généralisée, origine misogyne et tout. Comme ça fait en sorte que ces femmes-là, j'imagine, elles ont réagi que comme quelqu'un est conscient que ma réalité est difficile. Même s'il y en a qui me disent dans l'oreille que Oh, c'est pas tant difficile ce que tu fais. T'sais, moi, je pourrais le faire. Ils le font jamais.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, il va dire, moi, je pourrais le faire, mais quand il est temps de le faire, ça leur tente pas plus. Là. Ouais, ils vont comme... s'effoirer sur leur sofa. Puis...
Comme en Islande, ils ont fait de la grève encore. Ben, cette année. Oui, ça, puis une fois, je pense, dans les années 70, ils ont fait de la grève. Toutes les femmes ont arrêté de travailler. Tout le travail qu'elles font. La vaisselle, amener les enfants à la garderie, leur job à temps plein.
T'sais. En Islande, la présidente, la première ministre, c'est une femme.
Oui, la première ministre aussi. Elle a fait, moi, ouais, ouais, je travaille pas. Puis, ben, la première fois que c'est arrivé, le pays s'est écroulé au complet.
Oui, oui.
Il n'y a plus rien qui se passait. Je fais quoi avec mes enfants? Peux-tu les garder? Non, moi, je suis en grève. Tu sais, t'appelles ta mère est comme, moi, je suis en grève.
Appelle papa.
Appelle ton père, tu sais, comme, juste ça, comme, on ne réalise pas, là.
Mm-hmm. C'est 50-50, puis ça devrait l'être, mais c'est vraiment très loin de l'être encore aujourd'hui.
Oh, ouais.
Puis l'exemple de l'Islande le montre complètement que... On a du progrès à faire, puis il est temps de mettre les deux sexes sur le même pied d'égalité. Je dis les deux sexes, mm-hmm. puis comme un grand genre aussi, un complet de spectre. Ouais. Je le spécifie. Ouais.
Mais ouais, je pense que le fameux speech de Barbie, c'était bien pour sensibiliser, on va dire, mm-hmm. mais c'était encore une fois du féminisme de célébrité, selon moi, parce que c'était extrêmement de surface. Et ça remettait pas en question les systèmes, en tout cas, selon moi. Non, c'est
ça. Puis ça reste dans un film aussi. C'est pas comme si c'était un document qui avait été envoyé au gouvernement pour essayer de changer, de révolutionner le monde. Fait que c'est comme... Il y a deux côtés, ouais, à la balance.
Ouais. Donc, l'épisode mène à sa fin. Est-ce que vous aviez quelque chose d'autre donc vous voulez rajouter avant qu'on le termine?
Ben, si jamais vous avez des activités à proposer pour le comité ODI, oui, c'est sûr qu'on est intéressé. Oui. On a tout le temps ouvert pour plein d'idées. Puis pour des membres aussi, si jamais ça vous intéresse, l'année prochaine, venez aux élections, on va pouvoir apprendre à vous connaître puis avoir de nouveaux collègues, ça serait le fun.
Oui, faites ça. Oui. Venez nous voir, venez à nos activités.
Oui, go comité ODI. Merci beaucoup d'être venu.
Mais merci à toi de l'invitation aussi.
Merci. Donc, si vous avez des questions et commentaires, vous pouvez nous les communiquer par message privé ou par courriel. On aime beaucoup avoir votre opinion. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages. Vous pouvez aussi partager ce podcast sur vos réseaux sociaux pour soutenir l'initiative du comité. Merci beaucoup et prenez soin de vous.
Bye!
Bye! Bye.